What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre.
Tesla dévoile enfin la nouvelle Model 3 Performance et non pas Ludicrous. Renault ouvre des boutiques en ville pour promouvoir l'électrique. Les voitures électriques d'occasion font un flop, en tout cas pour le moment. Google Maps veut remplacer les planificateurs d'itinéraires. Voitures électriques quand le bruit devient son. Enfin, BMW investit dans la formation pour l'après-vente électrique. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine avec Pelican Mobility, une jeune entreprise spécialisée dans le financement des flottes utilitaires, qui vient de lever 4 millions d'euros. Nous retrouverons aussi l'essai de la semaine, celui de la nouvelle version de la Skoda Enyaq 85X. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 114 du 27 avril 2024. Avec aujourd'hui Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV et Johan De Salle de Tluki Conseil.
L'actu de la semaine.
Après des mois d'attente, de suspense et au final de fake news, Tesla vient enfin de dévoiler officiellement la nouvelle version de la Model 3 Performance. Et il faut avouer que celle-ci a un peu surpris, voire déçu les observateurs. En effet, première surprise, contrairement à tout ce qui avait été prédit comme pratiquement acquis, celle-ci ne s'appelle pas Ludicrous, ni Plaid, mais tout simplement Performance. D'autre part, loin des plus de 600 chevaux annoncés par de nombreuses fuites qui paraissaient crédibles, celle-ci se contente au final d'un modeste, entre guillemets, 460 chevaux. En fait, plus que la puissance, déjà très généreuse, c'est la régression de celle-ci qui surprend, puisque la version actuelle développe entre 520 et 130 chevaux, soit quasiment 70 chevaux de plus. L'autonomie WLTP est elle aussi en baisse, passant de 545 à 528 km. Les performances semblent quant à elles en très légère progression, puisqu'il faut désormais 3 secondes 1 pour passer de 0 à 100, contre 3 secondes 3 pour la version actuelle, ce qui est absolument rien, autant dire rien même. Mais au moins, Tesla prouve que la puissance ne fait pas tout, puisque le constructeur parvient à garder à peu près les mêmes performances, avec 15% de puissance en moins. Côté nouveauté, la Model 3 Performance 2024 se distingue par de nouvelles jantes de 20 pouces plus larges à l'arrière, ce qui est vraiment une première chez Tesla, enfin en tout cas sur la Model 3, une suspension active, des sièges différents plus enveloppants et une planche de bord en fibre de carbone. Voilà en gros pour les différences par rapport au modèle standard. Et il y a aussi une différence au niveau des boucliers avant et arrière, qui sont différents donc de ceux des autres versions de la gamme. Cette nouvelle Tesla Model 3 Performance est d'ores et déjà disponible à la commande au prix de 55 990 euros. Ça, c'est plutôt une bonne surprise quand on connaît les prix des premières versions. Cela étant, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la démarche de Tesla et surtout sur les raisons d'une attente aussi longue pour une voiture qui a finalement aussi peu évolué, voire même régressé sur certains aspects. On a un peu l'impression que la montagne a accouché d'une souris. Notons quand même qu'il y aura deux versions de cette nouvelle Tesla. La Model 3 Performance, une version américaine avec 510 chevaux et donc la version européenne avec 460 chevaux, cette différence s'expliquant par des batteries différentes, la version américaine étant équipée de Panasonic et la version européenne de LG qui apparemment serait moins performante pour gérer la puissance. Bonjour Jean-Christophe.
Salut.
On prend deux minutes pour discuter un petit peu de ton actualité. Il y a des projets, des événements en cours?
Oui, alors effectivement, on a un grand événement là qu'on organise le 8 juin à la Teste de Buch en Gironde. On a pris toute la partie extérieure du parc des expos de la Teste de Buch et on fait un grand rassemblement de nos abonnés, mais qui s'ouvre à tout le monde. Donc tous ceux qui sont intéressés dans la région girondine par la voiture électrique, bah, vous pouvez venir, c'est gratuit. Et vous pourrez rencontrer à la fois des possesseurs de voitures électriques et vous informer auprès de sur les modèles qui vous intéressent, par exemple. Et puis, pour débunker un peu quelques fake news, si vous avez peur. Et il y aura surtout une trentaine de véhicules à essayer. Donc, il y a une dizaine de concessionnaires. Il y a plein de nouveautés, la Scénic, la 3008. Et il y aura même la Citroën C3 à essayer sur place. Donc, ça va être une grande, grande fête avec des animations, du kart, des food trucks,
du kart électrique.
Kart électrique, ouais, bien sûr. Il y a pas mal de potes youtubeurs. Il y a même Johan qui va venir. Johan ici présent, il y a Charles de WeLike aussi que vous connaissez sur le podcast, etc. Donc ça va être un grand moment de voitures électriques. Et le lendemain, on organise un méga challenge. Alors ça, c'est un peu plus restreint, ça a 50 voitures.
Ouais.
Et on va faire des tours de rocade avec 50 voitures différentes dans les mêmes conditions pour mesurer l'autonomie des voitures. Donc ça va être assez drôle. Voilà, et il reste encore. Alors pour toute information, lachaîneev.fr, notre site. Donc, l'événement s'appelle Electric Fan Day et les tours de rocade, c'est le méga challenge. Il reste encore des places. Alors, tout est gratuit pour les deux. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Et il reste encore 8 places de voiture. Donc, si vous avez une voiture un petit peu originale, n'hésitez pas à vous inscrire et rejoignez-nous pour cette aventure.
Très bien. Eh bien, ça va être sympa. Johan, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Bonjour à tous.
Un petit peu d'actu pour toi aussi?
Ah ben, effectivement, moi, le 8 juin, je serai à la Teste de Bûche pour la première fois de ma vie, puisque je suis abonné à la chaîne Evie sur YouTube. Donc, je me suis senti concerné. Et moi, je serai là pour animer des fresques de la mobilité. La fresque de la mobilité, c'est un atelier. Alors là, on fera une fresque quiz qui dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais c'est un atelier qui prend entre 2 et 3 heures et qui permet de comprendre l'empreinte de la mobilité, l'importance de la mobilité dans notre quotidien et puis surtout les leviers d'action pour diminuer l'empreinte de la mobilité. C'est assez ludique, c'est assez sympa, il y a des jeux de rôle. Et donc là, on fera une mini-version parce qu'on ne peut pas garder les gens non plus pendant 3 heures. Il y aura tellement de choses à faire à côté qu'on fera la version light.
Mais on va mettre Johan sur un kart aussi, on va essayer de le défier pour voir ce qu'il vaut quand même.
Alors, il a l'habitude de conduire des engins électriques puissants, nous.
Et Johan, il vient avec une Volkswagen ID7. Voilà, comme ça, il y aura une Volkswagen ID7 sur place, vous pourrez la voir.
Ah, ok, d'accord. Donc, tu viens pas, Johan, avec ta Ioniq 6?
Non. On me prête une ID7, il n'y en avait pas. En fait, il y avait déjà une Ioniq 6 grise avec des bandes oranges qui était inscrite. À la test, et donc je me suis dit que j'allais demander à ce qu'on me prête une autre voiture.
Ah, tu vas voir, ça va être une bonne expérience, c'est pas mal hein, l'ID7, moi j'aime bien.
Ouais, j'aime bien aussi, je l'ai essayé, j'aime bien. J'y sais, tu as déjà une idée de des modèles de voitures qui seront présents, est-ce qu'il va y avoir des choses un peu exceptionnelles? Alors, j'ai fait une petite plaisanterie sur la Xiaomi SU7, mais évidemment il ne faut pas compter dessus, sauf miracle exceptionnel. Mais est-ce que, par exemple, on aura une Ioniq 5N ou des engins, un truc comme ça?
Ouais, exactement. En fait, au centre de l'événement, il y a un espace VIP dans lequel on va mettre des voitures un petit peu extraordinaires. Il y aura une Ioniq 5N. Alors, malheureusement, on ne pourra pas faire des tours avec. Mm. Enfin, heureusement pour la sécurité des gens, je pense, dans la Teste de Bûche. Il y aura une XPeng G9. C'est le SUV. Okay. D'ailleurs, XPeng m'a dit qu'ils arrivaient en France et qu'il n'y aurait probablement pas de berline dans les voitures vendues en France.
Ah bon?
Je suis absolument dégoûté.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des Lotus électrés, il y a plein de choses. Quoi. Vraiment, il y aura des voitures de dingue.
Ok, eh ben, ça va être sympa. On est impatients de voir ça. Et puis le lendemain, le challenge, c'est la deuxième édition. Vous aviez déjà fait ça l'an dernier.
Ouais, c'est ça. Le premier, c'était vraiment sur... l'efficience, c'est-à-dire on avait fait un tour ville-route-autoroute,
ouais.
Avec 50 voitures, on avait mesuré les consos, et là on va plutôt mesurer l'autonomie et on fait de la rocade, et je pense que beaucoup de gens vont être surpris des résultats, parce que par exemple une Tesla Model 3 Long Range ou une Ioniq 6 de roue motrice, sur la rocade à 90, je pense qu'elle va tourner pendant 5 heures, et ça va tordre le coup à pas mal de choses, je pense qu'on va arriver dans le WLTP assez facilement sur pas mal de modèles.
Bien sûr, surtout en été, au début de l'été comme ça.
C'est ça.
Très bien. Allez, on passe à l'actu et on commence tout de suite avec Renault qui lance une nouvelle génération de points de vente pour promouvoir sa gamme électrique. Johan ?
Oui, effectivement. Alors, on voit bien que les constructeurs, tous autant qu'ils sont, se cherchent ces derniers temps sur la manière de vendre des véhicules. Tesla vend les véhicules sur Internet et tous aimeraient bien faire ça parce que ça coûte moins cher que d'avoir des points de vente physiques. Il y a eu pas mal de discussions, d'articles... au sujet de Stellantis qui remplaçait ses contrats de distributeur par des contrats d'agents. Là, c'est une nouvelle manière de vendre des véhicules, donc des tout petits points de vente en centre-ville. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit en centre-ville qu'on vende le plus de voitures, en tout cas que ce soit la tendance d'acheter des voitures quand on habite vraiment en centre-ville, mais en tout cas, ça permet d'avoir un contact avec les utilisateurs qui peut-être viennent là pour travailler en transport en commun, mais qui habitent 40 km plus loin et qui ont besoin d'une voiture là où ils habitent. Donc moi, ça me paraît intéressant. Le monde de la distribution automobile est vraiment en train de changer et ils se cherchent un nouveau modèle. Moi, par contre, j'ai absolument pas... C'est un sujet qui me passionne, mais j'ai absolument pas la prétention de savoir quel sera le modèle de demain? Est-ce que ce sera du 100% Internet? Est-ce qu'il faut garder des showrooms? Est-ce qu'il faut que ces showrooms soient grands ou petits? Très compliqué à savoir.
Alors, on a l'expérience de Tesla, hein, qui avait, quand la marque est arrivée en France, enfin en Europe, mais en tout cas en France, qui a ouvert quelques stores, des magasins d'images un petit peu dans les centres-villes, sur les avenues, les grandes artères de centre-ville, les avenues un peu prestigieuses. On a vu le cas à Lyon avec un très beau Tesla Store en plein centre sur l'avenue de Saxe. Et il a tenu, je ne sais pas, quelques mois ou un an, 2 ans peut-être, et puis il a fermé sans d'autres explications. Et j'ai l'impression que ça s'est passé un peu pareil partout. Alors, je n'ai pas vu la même chose aux US. Aux US, j'ai vu que les concessions, les stores Tesla existaient et avaient l'air même de bien fonctionner. Notamment, j'en ai vu à Los Angeles, à Santa Monica, à Malibu, etc., qui sont toujours là et qui ont l'air qui font le plein. C'est bizarre quand même comme stratégie. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on en revient? Je sais pas. Moi, c'est pareil. Je trouve ça assez étrange. Tesla se retire, Renault ouvre des stores. JC, t'en penses quoi?
Bah moi, je trouve ça cool. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux voir ou rentrer dans une voiture, tu vas forcément j'allais dire en périphérie des villes, dans les zones commerciales, c'est là où il y a vraiment tous les grands concessionnaires, etc. Et le mettre au cœur de la ville, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Ça fait un peu Apple Store, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que tu y vas juste pour te faire plaisir et pas forcément pour acheter un truc, mais au moins pour voir, quoi. Mais quand on a été à Oslo, c'était beaucoup comme ça. Hein. Quand on se baladait dans les rues d'Oslo, c'était plein de petits stores, un store Lucide, Polestar, XPeng, tout ça. Ils étaient tous là en centre-ville avec des petits magasins où il y avait deux voitures dedans. Et c'est vrai que bah, du coup, tu la vois la voiture. En fait, c'est ça le truc. C'est que parfois, tu vois pas les voitures, quoi. Et là, elles sont... Tu passes devant tous les jours. Je trouve ça intéressant, moi, personnellement. Après, est-ce que c'est viable? Ah, voilà, c'est un petit peu un coup de com' de Renault de faire ça. Il faut voir s'ils vont en faire partout dans toutes les villes de France et si ça va durer longtemps. Mais... Ouais. En tout cas, ça fait parler d'eux. Voilà, y a des articles, on en parle là, c'est cool.
Moi, je trouve l'idée intéressante. Je suis pareil, très favorable à l'idée de développer du commerce de proximité, si on peut dire, et des stores en centre-ville. C'est toujours mieux qu'une boutique vide ou qu'une boutique sans intérêt. Donc... je pense que c'est vraiment des boutiques d'images. Elles vont peut-être pas faire un chiffre énorme, un chiffre direct sur le point de vente, mais elles vont probablement contribuer à un flux d'affaires, parce que ce qui va se passer peut-être, c'est qu'on va voir la voiture, on va la toucher, on va la sentir, on va s'asseoir dedans, on va parler avec un vendeur, à condition qu'il soit compétent et bien formé sur le sujet. Et après, peut-être que on va aller essayer la voiture ailleurs et puis on va aller l'acheter finalement dans une concession plus traditionnelle en périphérie, si les stores sont bien faits. Et puis c'est vraiment une ambiance, c'est pas que la voiture, c'est lifestyle en fait. C'est vraiment un élément de promotion de la marque, parce que j'ai vu que là, par exemple, dans le store Renault, il n'y aura pas que des voitures, il y aura aussi du merchandising, des petites miniatures, etc. etc. Donc c'est vraiment des concept stores, des boutiques, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et puis ce qui est la dernière particularité, c'est qu'elles ont un nom, imprononçable.
Ouais.
Qu'on peut épeler, hein, c'est RNLT Copyright. Donc voilà, c'est le nom de la boutique. C'est probablement volontaire. Ils ont certainement réfléchi au fait que c'était imprononçable. Par contre, visuellement, ça claque un peu parce que ça reprend un peu les standards des sites tech et du web d'aujourd'hui, où on a tendance un peu parfois à enlever les voyelles comme ça. Donc, à voir, à suivre. Alors, le premier a ouvert déjà à Paris.
Haussmann, ouais.
Boulevard Haussmann, c'est ça. Et puis après, il devrait y avoir donc d'autres villes qui devraient suivre. Alors, c'est souvent des grandes agglomérations, et ça sera probablement dans des endroits un peu premium, hein, donc à Bruxelles, Milan, Rome, Rotterdam, Madrid, Londres, Berlin, Medellin, en Colombie.
Mais ça va être intéressant quand ils auront aussi des produits un peu plus urbains, quand ils auront la Mobilize Duo, par exemple.
Ouais. Ça sera cohérent.
Voilà, vendre des... Ouais, voilà. Parce que là, exposer une Scénic à l'intérieur, je trouve que ça n'a pas vraiment un sens terrible, mais quand il y aura la Renault 5 Mobilize, qui sont des véhicules quand même un peu plus axés urbains, ça sera intéressant, quoi.
Très bien. Sujet suivant, chez Renault, on fait aussi de la voiture d'occasion, et notamment des voitures électriques d'occasion. Et les voitures électriques d'occasion, elles se vendent pas très bien. Plus l'offre se développe forcément de façon organique et naturelle. Moins le marché semble bouger, donc probablement quelques points de friction encore à l'idée d'acheter une voiture électrique, Johan.
Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais dézoomer un petit peu et reparler du marché du véhicule d'occasion au global. Sur l'année 2024, le marché du véhicule d'occasion part pas très 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 bien. Par exemple, en mars, on est à moins 3% par rapport à 2023, à mars 2023, sachant que janvier et février étaient très légèrement au-dessus de 2023, mais pas énorme. En fait, une des difficultés qu'on a, c'est que le marché de l'occasion est notamment fait pour beaucoup par des véhicules récents, et des véhicules récents, il s'en est moins immatriculé ces dernières années. Donc, il y en a moins à vendre sur le marché de l'occasion. Et puis, ça se ressent après au niveau des prix, tout type de véhicules confondus. En fait, on se rend compte que les prix des véhicules d'occasion récents ont plutôt baissé. Les véhicules qui ont 0-2 ans, c'est moins 0,3%. Les véhicules qui ont 2-4 ans, c'est moins 3%. Alors que les prix des véhicules les plus anciens, 8-15 ans par exemple, les prix ont augmenté de 14,9% et les plus de 15 ans, ils ont augmenté de 15,8%. Et ça, des véhicules de 8-15 ans ou plus de 15 ans, en électrique, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est des chiffres qui viennent de La Centrale et d'Auto Actu.
Ouais.
Et puis, dernier petit chiffre que je voulais donner, si on analyse justement par énergie, là, on se rend compte effectivement que les prix des VO, alors dans l'analyse, c'est électrique et hybride confondu, il n'y avait pas le détail de l'électrique par rapport à l'hybride, mais on voit qu'au premier trimestre 2023, les électriques hybrides se vendaient en moyenne, d'occasion se vendaient en moyenne à 34 980, donc 35 000, et au premier trimestre 2024, ils sont à 30 590, donc on est à moins 4 500 euros sur ces véhicules-là, qui sont les plus chers, parce que c'est des véhicules plus récents. Alors que sur les véhicules diesel ou essence, l'écart, il est de 1 000 euros à peu près, 22 500 pour 22 000 en diesel et 20 500 pour 19 000 en essence sur les mêmes trimestres. Donc il y a de toute façon une baisse du prix du VO, une baisse du prix du VO plus forte sur les véhicules récents, et les véhicules électriques, c'est plutôt des véhicules récents. Donc tout ça est assez logique. Et puis, assez bon, on va dire. Alors, on a vu que les prix des véhicules neufs diminuent fortement. Donc, c'est assez logique aussi que les prix des véhicules d'occasion diminuent. Et puis, c'est plutôt bon pour l'acceptation du véhicule électrique.
Alors, je vois aussi qu'il faut deux fois plus de temps en moyenne pour vendre un véhicule électrique qu'un véhicule diesel. Donc, en moyenne, 125 jours pour vendre une voiture électrique. C'est quoi ? Il y a une question de confiance aussi. Est-ce que les gens se disent « Ah, je ne vais pas acheter une voiture électrique » parce qu'il y a toujours, ils se posent toujours la question de la durabilité, de la santé de la batterie. Est-ce que ça joue aujourd'hui ?
Ah bah ouais, moi je suis sûr.
Ouais.
Je suis sûr parce qu'on avait fait une étude, on avait demandé aux gens qui n'avaient pas de voiture électrique combien de temps ils pensaient que la batterie durait, et il y avait plus de 30% qui pensaient qu'une batterie durait 100 000 km ou moins. Donc je pense que c'est certain qu'il y a plein de gens qui ont peur de la voiture électrique en occasion. Maintenant, il faut savoir que les batteries, en général, sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Donc ça permet quand même de voir venir et même acheter un véhicule d'occasion un peu kilométré en étant un petit peu tranquille. Maintenant, ouais, je comprends que ça fasse vraiment peur. Et moi-même, là, ma fille, elle a 18 ans. On a mis de l'argent de côté pour lui acheter une voiture. Alors, je suis content de la baisse des prix parce que du coup, je trouve des voitures électriques vraiment sympas d'occasion, pas chères.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que ça fait un peu flipper, quoi, d'acheter une voiture à 80, 90 000 km. Là, il faut vraiment qu'il y ait un protocole de mesure de l'état de la batterie que le vendeur peut fournir à l'acheteur pour le rassurer sur la santé de la batterie. Mais plus on avance, plus on voit que les batteries, finalement, ça dure super longtemps, que ça marche vraiment mieux que prévu, c'est beaucoup plus durable. Et que très probablement la voiture sera complètement détruite avant que la batterie ait perdu plus de 30% de capacité.
Alors ce protocole, il existe avec des startups comme MOBA, c'est pas pour leur faire de la pub, mais on les connaît, on les a déjà interviewés ici. Ils font un travail remarquable sur le test de l'état de santé des batteries de voitures électriques d'occasion, et en remettant un certificat avec tout un tas de normes. Donc je pense que ça peut aider, mais il faut encore faut-il que les gens connaissent.
Non, mais il faut que les gens soient rassurés petit à petit. Aujourd'hui, j'ai regardé sur le Bon Coin, j'ai vu des Tesla modèles S et Y qui sont vraiment les modèles les plus anciens et qui parcouraient beaucoup de kilomètres pour le coup.
Ouais.
Il y a des voitures à 420 000 km qui ont perdu 12-15% de batterie. Donc, faut rassurer les gens, ça fonctionne quand même super bien.
Ouais.
Mais je comprends. Ouais. Je comprends que ça fasse un petit peu peur à la voiture électrique d'occasion. Après, très clairement, on a eu un moment, il y a quelques années, où avec la crise des semi-conducteurs, il n'y avait plus beaucoup de voitures neuves. Et certaines, je me rappelle, le V6, c'était 16 mois d'attente. Donc, le marché de l'occasion avait explosé complètement. Les prix étaient déments, etc. Aujourd'hui, on est revenu dans des délais raisonnables. C'est normal que le marché de l'occasion redescende. Et puis, il faut dire aussi qu'en électrique, il y a quand même une grande, grande partie de Tesla. Enfin, Tesla représente une bonne part d'électrique avec les Zoé sur le marché de l'occasion.
Ouais.
Et Tesla a beaucoup baissé ses prix et puis joue beaucoup au yo-yo. Et c'est clairement, ça n'a pas joué en faveur du maintien des prix des valeurs des voitures électriques en occasion, quoi. Clairement.
Ouais. Après, il y a aussi un problème de positionnement de gamme, parce que sur le marché de l'électrique, il y a aussi des voitures qui, d'origine, étaient assez chères. Alors, on dit d'un côté que certaines voitures haut de gamme perdent énormément de valeur en occasion en électrique. Alors, j'ai entendu citer des exemples de Mercedes EQS qui perdaient 50% de leur valeur en quelques mois quand elles arrivent sur le marché de l'électrique, ce qui est assez terrible, assez radical. Et d'un autre côté, on a l'impression aussi que certains vendeurs cherchent vraiment à faire des affaires et à maintenir des prix hauts. Quand je regarde un petit peu sur des sites d'annonce des voitures, par exemple, comme les Taycan et compagnie, les prix d'occasion sont complètement délirants, quoi. C'est-à-dire que c'est des prix pratiquement des voitures neuves alors qu'elles ont 20, 25 000 km et ça se vend encore plus de 100 000, 120 000, 120 000, 125 000 euros. Donc, est-ce qu'ils arrivent à les vendre? Je me pose la question, vraiment.
Ah bah pour moi, le pire, c'est les Tesla dont je te parlais. Hein, à 350 000 km, ils les vendent encore 35 000 euros. Là,
c'est ça.
Après, il faut dire aux gens qu'un moteur électrique, ça ne s'use pas.
Oui, bien sûr.
Qu'il y a vraiment beaucoup de chances de faire beaucoup plus de kilomètres avec une voiture électrique qu'une voiture thermique, qui a énormément de pièces en mouvement, en rotation, en frottement, refroidi, graissé, etc. Et que s'il y a le moins de problèmes, voilà. Donc, il y a beaucoup plus de chances de faire beaucoup de kilomètres en voiture électrique, donc faut pas avoir trop peur de tout ça, mais je comprends effectivement.
Très bien. Oui.
Et moi j'aimerais bien lancer justement un débat sur le groupe WhatsApp. Alors ça, on parlait déjà un petit peu là ce week-end. Mais alors ce week-end, il y a eu, je crois, à un moment j'ai allumé mon téléphone, il y avait 182 messages que j'avais pas vus, donc j'ai pas pu tout lire. Mais j'aimerais bien avoir des retours de personnes qui ont acheté une voiture électrique d'occasion. De quoi ils ont eu peur? Comment elles se sont rassurées? Est-ce qu'elles ont obtenu le SOH? Ou est-ce que c'était une donnée qui n'était pas possible à obtenir? Moi, ça m'intéresserait qu'il y ait des messages audio sur le groupe WhatsApp sur l'expérience d'acheteur de véhicules électriques d'occasion.
Le SOH, hein, je précise, pour les non-initiés, c'est State of Earth, c'est-à-dire l'état de santé de la batterie, en fait. C'est un terme officiel pour définir l'état de santé d'une batterie de voiture électrique. Ok, bah on va lancer le débat et je referai un petit post sur WhatsApp pour inviter nos chers auditeurs à réagir et à nous transmettre leur expérience d'acheteur de voiture électrique. Très bien, sujet suivant, c'est Google Maps qui améliore, on le sait, très régulièrement son application. Et qui fait encore un grand pas en avant en enrichissant les fiches des stations de recharge. Alors on sait qu'elles sont déjà présentes maintenant dans l'application. Et là, Google Maps ajoute des nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques, comme l'affichage des informations, alors des informations plus précises sur les bornes de recharge et la planification d'itinéraires avec arrêt de recharge. Jean-Christophe, ça nous amène à nous poser une question. Est-ce que c'est la fin des planificateurs intégrés dans les voitures ou pas?
Bonne question.
On la pose souvent. Hein,
parce non, que... mais moi, j'ai toujours dit que ce que je trouvais, peut-être l'outil idéal n'existait pas. En gros, moi, ce que j'aimerais, et c'est ce que va proposer Google Maps, c'est en gros, tu définis ton itinéraire, tu dis que tu vas à Paris, et en gros, quand tu roules, ça te dit toutes les stations à venir, combien de kilomètres elles sont, quelles sont les stations, et puis à toi de gérer où tu veux t'arrêter, etc. Parce qu'il y a tellement de stations maintenant partout que... se forcer à suivre un itinéraire, je trouve ça un peu chiant. Ça serait bien de savoir qu'est-ce qui arrive devant toi en permanence. Et a priori, ça, c'est une nouveauté qui arrive sur Google Maps. Alors, j'ai lu le billet, je trouve ça pas très très clair parce que il y a des choses qui vont arriver sur Google Maps mobile et il y a des choses qui vont arriver que sur Google Maps Android Automotive, ce qu'ils appellent built-in, oui, et qui vont ensuite arriver sur le mobile. Enfin, bon, c'est pas très très clair, mais en tout cas, sur Android Automotive, clairement, il y a un truc génial, c'est que quand tu roules, il y a marqué les stations autour de toi, un petit peu comme chez Mercedes finalement. Mercedes le fait déjà. Et la note et le type de chargeur, etc. Ça, je trouve ça très très cool. Il y a aussi une nouveauté qui t'explique comment te rendre à la borne, parce que des fois, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas assez bien indiqué. Bah,
alors ça,
c'est un descriptif généré par IA selon les avis laissés par les précédents utilisateurs, qui va t'expliquer en gros, faut tourner à gauche, à droite et avant la sortie, tourne. Enfin, ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, dans la news que j'ai lue, il y a des choses, j'ai l'impression que c'est déjà présent sur Android Automotive, donc je suis un peu... je ne sais pas trop quoi penser. Mais en tout cas, bon, clairement, c'est de mieux en mieux. Et moi, je voulais aussi parler de Apple CarPlay, parce que l'autre jour, j'ai conduit une BMW i4, et à un moment, j'étais à 10% de batterie, et Apple CarPlay m'a dit, attention, tu n'as bientôt plus de batterie, il faut que tu te recharges, et il m'a proposé les bornes aux alentours. Ce qui voulait dire que Apple CarPlay arrivait à savoir le pourcentage batterie de la voiture. J'ai trouvé ça fou. Et je pense que chez Apple, ça avance aussi. On sait que chez Porsche, par exemple, la voiture communique avec Apple CarPlay et ça fait des choses sympathiques aussi. Et là, je pense que l'avenir est à ça, c'est-à-dire à la communication entre la voiture et Google Maps ou Apple Plan.
Et ça veut dire que Apple CarPlay connaissait ton niveau de batterie. Donc ça veut dire qu'il est quelque part, il dialogue avec la voiture, il est connecté à...
Exactement, ça veut dire qu'Apple CarPlay savait que j'étais bas en batterie et m'a proposé des arrêts recharge. J'ai trouvé ça fou. Et là, on voit l'avenir. Oui, c'est vraiment génial, quoi. S'appuyer sur des logiciels de cartographie bien puissants comme Apple Plan ou Google Maps et lâcher un peu les GPS des voitures avec une communication entre les deux avec le... Apple Plan qui sait à combien t'en es de batterie, etc. Là, ouais, on se libère des planificateurs. Même les anciennes voitures du... Ah bah non, parce que les anciennes voitures, elles communiqueront pas avec Apple CarPlay, donc. Mais ouais, ça promet des choses sympas. Effectivement, je pense que moi, la planification à l'ancienne où on te dit tu vas charger là, alors que ça se trouve, t'auras envie de pisser une demi-heure avant, etc. Ça me saoule. Ouais. Je préfère des outils un peu plus flex qui te disent au fur et à mesure où tu peux t'arrêter. Et arrête-toi si tu veux, t'arrêtes pas si t'as pas envie, etc. quoi.
Johan, un avis sur cette nouvelle expérience en vue ?
Alors, moi, je pense vraiment que les planificateurs, ils ont été hyper utiles. Ils sont toujours hyper utiles, hyper rassurants pour quelqu'un qui passe à l'électrique, mais ils vont l'être de moins en moins. 42 000 stations électriques en France, c'est 4 fois plus que les stations essence. Il y en a 11 000, un peu moins de 11 000, je crois, aujourd'hui. Des stations qui, de plus en plus, prennent la carte bleue.
À pondérer quand même avec le taux de le pourcentage de fonctionnement, hein, c'est qu'il est pas optimal, c'est-à-dire que en gros on est quoi, on est sur 85% de taux de disponibilité.
Il doit y avoir, alors je dis ça de tête parce que je n'avais pas repréparé ces chiffres, mais il doit y avoir un petit peu plus de 10 000 prises. Alors là je parle plus de stations mais de prises, enfin prises bornes, point de charge comme on dit. Plus de 150 kW en France et effectivement un taux de disponibilité qui varie entre 75 et 80%, ouais. qui n'est pas encore suffisant.
Qui ne s'améliore pas d'ailleurs.
Qui ne s'améliore pas depuis à peu près 2 ans. Donc là, c'est clairement, il y a besoin de progresser. Par contre, comme les stations qui sont construites sont de plus en plus grandes, il est quasi impossible d'arriver sur une station 8 stèles où les 8 seraient en rade. Ça n'est pas possible.
Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé récemment.
Ça peut arriver, ouais.
Et ça fait péter un plomb. Vraiment, quand toute la station est en rade. Mais c'est vrai que c'est super rare. Et quand tu arrives sur une station où il y a 16 bornes, il y en a 2 en panne, ça passe vraiment inaperçu, quoi. Mais ouais, il y a 2607 stations de recharge rapide en France. Donc on est encore un peu en retrait par rapport à l'essence, mais voilà, il y en a vraiment de plus en plus, il y en a partout, et surtout la croissance, elle est complètement folle. À tous les gens qui disent il n'y a pas assez de bornes, la croissance des chargeurs est beaucoup plus rapide que les ventes de voitures électriques.
Complètement.
Et d'ailleurs,
On est passé deuxième derrière, derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne, hein, en France.
Ah ouais,
pour le nombre de points de charge.
Et puis maintenant, il y a des stations avec 36 bornes, même non Tesla, enfin, c'est même pas Tesla qui fait ça, c'est incroyable, on arrive sur des trucs, on se croit à Las Vegas, quoi, tellement il y a des lumières partout, hein. C'est génial.
Ok, tant que c'est pas la loterie pour charger, ça nous va bien. Ok, avant-dernier sujet, alors c'est un sujet un petit peu original, je voulais qu'on fasse un petit focus en quelques mots dessus, parce que c'est un sujet moi qui me tient à cœur, c'est le son. Et donc, il y a une manifestation qui s'appelle la Semaine du Son, et Renault est présent. Alors, on va reparler un petit peu de Renault, qui vient un petit peu expliquer comment la voiture électrique change la perception du bruit. Alors, on parle de bruit ou on parle de son en matière de voiture. Les esthètes sauront répondre quand on parle de moteur thermique, souvent. Mais est-ce le cas avec les voitures électriques et qu'est-ce que le bruit et qu'est-ce que le son? Alors c'est presque un sujet philosophique, mais je crois que vous aviez chacun un petit mot sur ce point. Je vous laisse. Je sais pas qui veut commencer.
Tu veux que je commence?
Vas-y.
Moi je voulais juste dire que j'ai assisté 2-3 fois. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le dire. J'ai assisté 2-3 fois à des espèces de parades de voitures électriques et de motos électriques. Et j'ai été choqué que lorsque tu as 30 motos électriques qui roulent, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment un truc complètement dément. Et pour m'être baladé à Oslo, par exemple, où il y a une proportion de voitures électriques, surtout dans Oslo même, qui est vraiment très importante.
Dans le centre-ville, ouais.
La ville, enfin... Les gens ne se rendent pas compte comment tout change. Le bruit. Alors, il y a encore les bruits de roulement. Et justement, c'est intéressant parce que tous les manufacturiers de pneus travaillent là-dessus pour aussi. Parce que du coup, quand on n'entend plus le bruit du moteur, on entend tous les bruits, surtout les bruits de route. Et donc, à la fois, les industriels de la route et les industriels du pneu travaillent là-dessus. Mais enfin, vraiment, je pense que, je l'ai déjà dit une fois, mais je pense que c'est le moment d'acheter des apparts sur le périph'. Parce que bientôt, ils vaudront beaucoup plus cher, c'est une évidence. Quand dans 30 ans, il y aura beaucoup moins de voitures thermiques, ce sera plus du tout pareil. La ville sera beaucoup plus agréable. Moins de pollution, moins de murs noirs, moins de bruit. Voilà, c'est vraiment, hein, pour y avoir assisté 2-3 fois, c'est incroyable le changement.
Et c'est une vraie question c'est une question, moi c'est un peu mon dada, hein, j'avoue, et c'est un sujet sur lequel je me penche de plus en plus. C'est vraiment la question de la pollution sonore. On en parle très peu. On en parle peu parce que on en parle beaucoup moins que de la pollution de l'air et que du CO2. C'est un sujet qui est pas tellement mis en avant parce que j'ai l'impression que la pollution sonore, et je le vois autour de moi, dérange moins parce que les gens en sont moins conscients et parce que ils sont souvent dans une bulle. Je l'ai vu, je l'ai constaté hier. J'étais dans un bus, je me rendais à mon lieu de travail en autobus. Et ce que je fais pas très souvent parce qu'en général j'y vais en vélo, mais là pour des raisons précises j'y suis allé en bus. Et j'ai observé un peu les gens dans le bus parce que j'étais un petit peu en mode ethnologue parce que je prends très rarement les transports en commun. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart, on n'était pas très nombreux, mais la plupart des gens qui occupaient le bus étaient avec un énorme casque ou des oreillettes. Donc chacun dans sa bulle. Donc déjà, la pollution, je ne sais pas si c'est de la pollution sonore, mais en tout cas, je me demande comment on fait pour vivre toute sa journée avec des oreillettes plantées dans les tympans et de la musique ou autre chose.
Mais c'est parce qu'on écoute le podcast automobile.
Oui, bien sûr. Mais alors, ils en écoutent plusieurs épisodes d'affilée apparemment. Donc, ils sont chacun dans une bulle. Et finalement, ils deviennent, en se créant leur propre environnement sonore, ils deviennent eux-mêmes totalement étanches aux nuisances sonores extérieures. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression, et notamment dans la population jeune, quand on parle de pollution sonore, ça ne résonne pas, ils s'en foutent. Quand on parle de CO2, ça réagit beaucoup. Quand on parle de réchauffement climatique, ça réagit beaucoup. C'est des sujets qui sont maintenant largement connus, maîtrisés et dont tout le monde connaît à peu près les tenants et aboutissants. Quand on parle de pollution sonore, qui est une pollution terrible, qui cause aussi des problèmes de santé, etc. J'ai pas de chiffres sous les yeux, mais c'est très préoccupant. Et là, il y a plus personne. Et effectivement, l'électrification va probablement aider à un petit peu. Il y a autre chose quand même qui me surprend, c'est que quand je suis au bord d'une route, et que je vois passer des voitures qui vont, par exemple, je sais pas, en ville à 60 km/h, ou à 50 km/h, ou au bord d'une nationale à 80 km/h, et que je vois passer des voitures électriques dans le flux, eh ben, je ne fais pas la différence, parce qu'elles font autant de bruit à partir de 50, entre 50 et 80 km/h. Comme tu le disais, Jean-Christophe, les bruits de roulement l'emportent sur les bruits de moteur. Les voitures aujourd'hui ont des moteurs qui sont devenus très, très silencieux. Et franchement, pourtant, j'ai une bonne ouïe, mais tu me mets au bord d'une route avec un bandeau sur les yeux et tu me fais un blind test. Et tu me fais passer 10 voitures, dont 3 électriques. Je pense que j'aurais du mal à dire quelles sont les électriques. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je suis complètement d'accord avec ça. Je me suis déjà fait la remarque plusieurs fois. Le bruit ou le son, de toute façon, c'est un sujet qui est intimement lié à l'automobile depuis toujours. Si on parle des bruits de moteur, bon, bah, bien entendu, V8, 600 lignes, le bruit d'une deux chevaux, quand on était enfant, on savait reconnaître sans se retourner si c'était une deux chevaux qui arrivait, s'il ne faisait pas le même bruit qu'une autre voiture ou une 4L qui avait aussi un bruit spécifique. Et puis les constructeurs ont toujours travaillé. Le bruit, par exemple, de la fermeture de la portière, c'est un sujet qui est hyper travaillé chez les constructeurs.
Les acousticiens chez les grandes marques, chez Audi par exemple, qui calculent et qui travaille sur absolument tous les sons de la voiture, y compris le son du clignotant.
Il y a justement des sons de clignotant, des sons de fermeture de portière qui donnent une notion de qualité perceptible du véhicule.
Une signature sonore.
Exactement. Et donc c'est des sujets qui sont travaillés depuis toujours. Et le bruit, justement, quand on passe à l'électrique, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, effectivement, quand on est à haute vitesse, moi, sincèrement, je vois pas bien la différence entre être à haute vitesse, à 90, à 110, à 130. Ça fait à peu près le même bruit qu'une essence ou qu'une diesel moderne dans la voiture. Un véhicule comparable, bien évidemment. Si vous prenez une toute petite Citadine que vous la mettez à 130 pendant 4 heures, ça ne fait pas le même bruit qu'une électrique que vous avez payé 80 000 euros de grande qualité. Mais ce qui est choquant, c'est à basse vitesse, où là, il n'y a pas de bruit du tout, ou juste le bruit des gravillons qu'on va entendre, l'impression d'entendre chaque gravillon qui s'éjecte du pneu, et puis les piétons qui ne vous entendent pas. Moi, ça, c'est quelque chose qui me choque encore après quelques années d'électrique. Où parfois je suis derrière des piétons ou des cyclistes et je me dis mais pourquoi ils se poussent pas, ben, en fait ils m'entendent pas, mais j'ai toujours pas intégré qu'ils ne m'entendaient pas.
D'ailleurs, ce serait bien un petit klaxon piéton quand même, comme les bus, tu sais, un petit ding-ding,
une petite sonnette.
Ouais, une petite sonnette pour se faire entendre sans klaxonner comme un gros porc.
Bah, normalement, il y a la VAS, hein, il y a le bruit, ouais. Le buzz qui est émis jusqu'à 20 km/h, donc qui est obligatoire depuis juillet 2019 sur toutes les voitures électriques et hybrides. Mais effectivement, et ça participe aussi énormément des éléments, on parle d'éléments de langage, mais on va parler d'éléments de conduite qui caractérisent la conduite de voiture électrique, et notamment cette attention que tu dois avoir de tous les instants, principalement en ville, parce qu'il faut avoir intégré que les gens ne t'entendent pas. Et alors, en plus, sur des modèles d'électrique d'avant juillet 2019, comme c'est le cas avec ma voiture, qui est absolument totalement silencieuse en dessous de 30 km/h, en dessous de 40 km/h. Et donc, quand tu roules en ville, il faut être doublement vigilant parce que tu ne sais jamais à quel moment un cycliste ou un piéton peut traverser devant toi parce que tout simplement, il ne t'a pas entendu. Et il m'est arrivé, alors c'était même avant, c'était avec une hybride que j'avais avant et qui n'avait pas la VAS, ou qui l'avait, mais que je le désactivais parce qu'il était désagréable. Et il m'est arrivé à quelques reprises, les gens étaient moins initiés à l'époque, d'il y a une dizaine d'années, 7-8 ans peut-être, où je me suis littéralement souvent fait engueuler en ville. Vraiment, c'était hallucinant comme comportement, les gens m'engueulaient parce qu'ils n'entendaient pas ma voiture. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qu'on n'entend pas ? Genre, c'était de ma faute si eux se jetaient sous mes roues, quoi. Alors, en gros, c'est à peu près ça, l'idée. Donc, voilà, donc effectivement, ça demande à être... Doublement vigilant.
Alors moi, j'ai pas ce problème parce que j'habite à Arcachon et la moyenne d'âge étant très élevée, de toute façon, ils n'entendent pas non plus les voitures thermiques. On fait quand même attention. Non, mais tout à l'heure, tu disais, Johan, un truc qui est hyper intéressant, c'est que c'est vrai. Et avant, on reconnaissait les voitures, genre les deux chevaux, 4L, Twingo et tout, au bruit du moteur. Ouais. Et maintenant, ça se fait aussi avec les voitures électriques. C'est-à-dire que bien quand... Une Hyundai, je les entends, je les reconnais, forcément.
Ouais.
Une Zoé, tu la reconnais. Il y a quelques voitures comme ça dont tu reconnais. Bon, la Zoé, forcément. Mais maintenant, j'entends là au bureau quand ça passe, je sais, il y a une Zoé.
La Zoé et son infâme bourdonnement, comme je l'ai souvent dit, en ville, tu la reconnais entre mille. Et ouais, ça fait vraiment un son de, je sais pas, de mixeur. C'est un lobe. Et après, t'as des oui, bien sûr. Et après, t'as des marques qui travaillent énormément aussi l'acoustique de leur voiture électrique. Alors, on a cité la Ioniq 5N, mais qui est un peu extrême. Mais si tu vas du côté de BMW, toi que tu connais bien, j'y sais. Alors, c'est toujours un peu chez les premiums allemands. Hein, mais Audi, Porsche. Alors, BMW a fait travailler le son de ses voitures électriques par Hans Zimmer, quand même, rien que ça. Et puis chez Mercedes, ils ont aussi travaillé avec un musicien, un compositeur et des acousticiens. Chez Porsche, ils ont eu leur propre démarche, comme souvent, un petit peu originale pour sonoriser le Taycan. Et c'est, je trouve, absolument incroyable. C'est magnifique. Et autant de l'extérieur que de l'intérieur, c'est un son qui est doux, qui n'est pas du tout agressif. Et j'ai encore eu récemment, j'étais en terrasse, vu un Taycan passer. Je me suis retourné, je l'ai reconnu tout de suite comme on reconnaît une 911. Et je me suis dit, là, ils ont réussi leur coup. Parce que j'ai été avec des gens et voilà, et j'ai dit, ah, là dans mon dos, il y a un Taycan qui arrive. Vous allez voir, c'est une voiture électrique. Et ils ne connaissaient pas très bien. Et c'est exactement ça, je l'ai reconnu. Et le son, même en tant que piéton, est absolument somptueux. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a un champ à explorer qui est super intéressant pour les acousticiens automobiles.
T'as vu, Johan, nous on a les refs 2 chevaux, 4L, Twingo, Zoé. Et lui, il reconnaît les Audi et les Taycan, quoi.
Non, mais c'est un exemple. C'est des exemples parce que non, je ne voudrais pas passer pour ce que je ne suis pas. Alors, c'est pas du tout la question. C'est, tu sais, quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, j'avais une coccinelle et c'est pareil, je les reconnaissais entre 100 et je trouve ce, voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu important, je pense, pour les constructeurs d'arriver à retrouver cette identité sonore et cette signature sonore qui fait que ben, quand on s'intéresse un peu au sujet, on reconnaîtra et on commence déjà à reconnaître les voitures électriques qui passent près de nous.
Non, je veux dire, pour le Scénic, c'est Jean-Michel Jarre qui a bossé sur
oui, exact.
Sonore. Bon, après, sincèrement, c'est pas bien. Peut-être que je ne suis pas sensible à ça, mais je me dis, bon...
Ah ouais?
C'est, ouais, enfin voilà, quoi. T'as juste envie de l'enlever de toute façon, parce que... Non, mais je suis peut-être parce que je suis méchant, tiens. Donnez votre... Ah bah non, personne ne l'a pu l'essayer. Là.
Non, je serais très curieux, justement, bah, de faire, tu vois, une série d'essais, une petite étude sur les environnements sonores des voitures électriques, en tout cas leur signature sonore, ça peut être un sujet assez intéressant aussi. Allez, on boucle, messieurs, avec un dernier sujet sur la formation. Et là, on parle de BMW qui a mis en place une formation en alternance pour former des techniciens experts en après-vente automobile avec une catégorie d'épreuves dédiée à l'électrification. Afin de préparer son réseau de concessionnaires. Alors ça revient un petit peu sur des sujets dont on a souvent parlé et dont on continuera à parler. C'est toujours la pédagogie et l'accompagnement qui nous semble nécessaire chez les premiers ambassadeurs de la voiture électrique, c'est-à-dire les concessionnaires. Johan ?
Oui, et puis ça reboucle aussi avec une actualité récente. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été voté ou pas voté, je n'ai pas relu en détail l'article, mais la baisse des aides sur l'alternance dans les entreprises. Moi, j'ai quasiment toujours géré des ateliers, des entreprises où il y avait des ateliers pour l'entretien des véhicules. J'ai toujours eu recours à l'alternance. Je trouve que c'est un moyen super, y compris pour l'entreprise et pour aussi bien pour l'alternant, parce que ça lui permet d'apprendre. Il y a des gens qui aiment bien avoir du concret et les cours théoriques, ça leur plaît moins. Donc là, il y a justement de l'alternance de cours théoriques et de concret. Et puis on peut faire monter. Des jeunes jusqu'à des BTS, jusqu'à des mentions en électricité, où ils ont vraiment des qualifications qui sont exceptionnelles. Et ça, c'est ce dont on a besoin pour entretenir les véhicules électriques. L'entretien du véhicule électrique, on a déjà parlé plein de fois dans ce podcast. Il y a peut-être un petit peu plus de pneus, beaucoup moins de freins, plus du tout d'huile. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup moins de choses à faire. Mais par contre, de l'électronique, il y en a dans tous les sens, et il y a besoin de personnes qui sachent comprendre l'électronique et qui sachent trouver, diagnostiquer une panne électronique, voir d'où ça vient, quel capteur ça peut être. Et la valise Diag vous dit pas tout, hein. La valise Diag, elle est capable de se tromper tout autant que l'être humain. Et je trouve ça super que BMW mette en place ce type de ce type de choses et investissent. Enfin, il y a un petit peu un discours ambiant aussi de dire, bah oui, mais l'électrique, c'est la fin de l'entretien des véhicules. Moi, j'y crois pas du tout. Il y aura besoin d'entretenir les véhicules. Je pense qu'en plus, on va garder les véhicules de plus en plus longtemps. Je repense à Revolt qui est déjà intervenu sur ce podcast, à tout un tas de gens qui font par exemple du retrofit. Hein. Il y a Rev Mobilities aussi, je crois, qui était intervenu dans le podcast.
Oui.
Donc, on va garder les véhicules plus longtemps. Donc, on a besoin de gens qui sont capables de les entretenir, ces véhicules. Et il nous faut des gens qui soient hyper calés en électronique, en électricité. Et c'est génial que BMW investisse là-dedans. Et ils ne sont pas les seuls, hein. D'autres le font, mais c'est vraiment une démarche très fructueuse, enfin, très vertueuse à mon sens.
Jean-Christophe, et on conclura.
Bah écoute, moi j'ai l'impression qu'il y a deux marques en ce moment qui investissent beaucoup là-dedans, c'est BMW et Renault, qui parlent aussi beaucoup de centres de réparation de batteries, de rétrofit d'anciens modèles, etc. Et je trouve ça hyper bien, et d'ailleurs en ce moment... Il y a un gros débat qui court avec une pétition sur l'obsolescence programmée des véhicules électriques.
Oui.
En particulier, les voitures, par exemple, les BYD et les Tesla à batterie structurelle, etc., qui fait que ça devient de plus en plus compliqué à réparer. Les gigacastings où on assemble des gros blocs de carrosserie, ce qui fait que quand on a un accident, les voitures partent plus vite en épave. Et j'avais discuté avec Jérémy de Revolt,
oui,
qui m'avait dit que, par exemple, BMW était un des rares où, quand tu avais un problème, par exemple, sur une i3, tu pouvais demander à BMW des cellules carrément de batterie. Et ils pouvaient réparer les batteries à la cellule près, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Je pense que le gouvernement doit, enfin, l'Europe même doit pousser à ce que les véhicules soient réparables, parce que le but du jeu quand même, et là je suis d'accord avec Johan, c'est que si on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre dans l'automobile, il faut que les véhicules durent le plus longtemps possible. Voilà. Et donc il faut pouvoir les réparer. Parce que vu que ça ne consomme rien au roulage, il faut qu'on puisse compenser la fabrication sur une durée de roulage plus longue, 300, 400, 500 000 km. Et donc ça se fait qu'avec des véhicules réparables, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, voilà, je suis très content que BM investisse dans la pré-vente et que. Parce que c'est la grande peur. Eh bien, on en parlait tout à l'heure avec l'occasion, c'est la grande peur, les voitures électriques qui sortent de garantie, surtout, qui n'ont plus de garantie batterie.
Ouais.
Et si on peut prouver par A plus B qu'on peut réparer, que ça ne coûte pas cher et qu'une panne de batterie, bah, finalement, ce n'est pas 10 000 euros à mettre derrière, bah, c'est très très bien. Et voilà, vraiment, c'est sur la bonne voie. Contrairement à d'autres. Voilà.
Très bien. Alors moi, je m'étais fendu d'un édito de la semaine dernière sur Automobile Propre où je relatais un petit peu une expérience avec quelques amis plutôt typés entrepreneurs, chefs d'entreprise, profession libérale. Et on est venu à parler très rapidement de voitures électriques parce que c'est un sujet qui est assez courant actuellement, puis ils connaissent ma position, donc ils me questionnaient un petit peu. Et contre toute attente, j'ai été très agréablement surpris parce que la plupart étaient tout à fait pro-électrique et envisageaient d'y passer pour eux ou pour leur flotte d'entreprise. 5 d'entre eux sur une vingtaine de personnes étaient déjà à 100% électriques. Et malheureusement, le discours, c'était le discours un petit peu hostile à la voiture électrique. Ils l'ont rencontré surtout chez les concessionnaires à qui ils s'adressaient. Avec des exemples assez édifiants de discours totalement hostiles, mais aussi un petit peu lunaires sur non, n'achetez pas une voiture électrique, ça dure pas longtemps, dans 3 ans elle vaudra plus rien, la batterie sera morte, c'est une très mauvaise affaire pour votre entreprise, achetez plutôt un hybride ou un diesel. Et les rares qui ont réussi à passer outre un petit peu cette hostilité et à dire oui, si je veux quand même une voiture électrique ou j'en veux plusieurs pour ma société, ont connu un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire se sentir complètement abandonné dans la nature une fois qu'ils ont récupéré leur voiture. Aucune formation, aucune pédagogie, aucun accompagnement, démerdez-vous. Donc je pense qu'effectivement la démarche de BMW est bonne et il y a encore certainement beaucoup de travail dans ce domaine. Voilà, très bien. Eh bien écoute,
c'est pour ça qu'il faut acheter le livre La voiture électrique, ça ne marchera jamais, d'Éric Dupin.
Ah oui, effectivement.
Dans toutes les bonnes librairies Amazon.
J'en ai entendu parler, il paraît qu'il est pas mal.
C'est pas mal, hein, il paraît. Hein.
Ouais, il paraît. Ah ouais, c'est pas mal. Très bien.
Bien, mais merci beaucoup messieurs. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine de la voiture électrique. Très bonne semaine à vous et à très bientôt.
L'interview de la semaine.
Faciliter la transition des professionnels et collectivités vers une mobilité plus responsable en les accompagnant dans le passage à l'électrique, c'est la mission de Movivolt, une entreprise experte dans la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels, filiale de la Poste Group et de la Caisse des dépôts. L'entreprise propose un catalogue de 54 véhicules particuliers et utilitaires 100% électriques. Pour en parler, je reçois Emmanuel Bonneau, président de Movivolt. Bonjour Emmanuel Bonneau.
Bonjour Eric.
Vous êtes président de Movivolt, une société spécialisée dans la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Pouvez-vous nous présenter la société en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, Movivolt a été créé en mai 2021. C'est à l'origine une idéation de la Caisse des dépôts et de la Poste. D'accord. Et on a lancé notre activité commerciale quelques mois plus tard, en octobre 2021, et avec des premiers véhicules à la route en mars 2022. Et Movivolt, on fait de la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Donc, location longue durée, assez classiquement de 24 mois à 72 mois. Véhicules électriques, tous les véhicules du marché, que ce soit des véhicules utilitaires ou des voitures. Et quand on dit pour les professionnels, on parle de TPE, PME, ETI et également collectivités locales.
Des indépendants aussi, des professions libérales, architectes, médecins, etc.
Oui, bien sûr, on en fait quelques-uns. On a par exemple une infirmière, on a deux médecins, on a quelques professions indépendantes également parmi nos clients.
Vous êtes combien dans la société aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine dans la structure, sachant qu'il y a une partie de l'activité qui est réalisée avec des partenaires. Et on a notre siège en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, mais on opère sur toute la France.
Ça n'a pas été trop difficile de vous lancer en pleine période de Covid, là, d'après ce que je comprends ?
Ça a été un contexte de lancement difficile, à la fois en période de Covid, mais aussi en pleine crise de l'offre dans le marché automobile, hein, puisqu'on a commencé à distribuer notre offre fin 2021, à un moment donné où les délais de livraison étaient d'un an et même un an et demi parfois sur certains véhicules. Donc ça a été un contexte un petit peu particulier en effet. Le retour à la normale s'opère, hein, donc à la fois sur des délais de livraison qui sont bien plus courts, et puis sur des prix et sur des remises qui sont devenus un petit peu plus raisonnables de la part des constructeurs. Voilà.
Alors, heureusement, il semblerait que vous ayez les reins assez solides, puisque vous êtes une création filiale en fait, de la Caisse des dépôts et de la Poste, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et alors, ce sont deux organismes qu'on n'attend pas forcément dans le secteur très concurrentiel de la voiture et puis surtout de la voiture électrique. Est-ce que ça vous aide ? Ça vous apporte une légitimité ou est-ce que ça peut être parfois un handicap ?
Nous, à la Caisse des dépôts, qui est notre actionnaire à 70%, on a été créé au sein d'un département qui porte également beaucoup d'investissements dans les bornes de recharge, par exemple, dans l'autopartage, dans le financement de poids lourds. Et donc, on a un vrai écosystème autour de la transition énergétique, donc pas juste autour du financement, vous voyez, mais autour de la transition énergétique. Donc, en fait, il y a un vrai cercle d'expertise et des synergies avec les autres acteurs. Et puis, côté La Poste, notre actionnaire, donc à 30%, La Poste via sa filiale VI Poste. VI Poste qui opère la flotte du groupe La Poste, c'est 65 000 véhicules à date, 20 000 véhicules électriques. C'est encore, je crois, aujourd'hui, la plus grande flotte de véhicules électriques en Europe. Donc, c'est une expertise et une expertise qui date pas d'hier, qui date d'il y a plusieurs années, voire décennies. Et en fait, cette expertise de La Poste, c'est pas qu'une expertise en tant que financeur ou en tant que vendeur de voitures, hein. C'est une expertise d'utilisateur. Donc nous, quand on échange avec nos clients et on leur dit qu'on a l'expertise, c'est une expertise d'utilisateur. C'est des milliers et même dizaines de milliers de facteurs, factrices tous les jours qui utilisent des véhicules électriques et on a le retour d'expérience à un an, à trois ans, à six ans, etc. On sait anticiper quelques particularités du véhicule électrique et donc en termes de conduite du changement, puisqu'on est là aussi pour accompagner nos clients hein, dans le passage du thermique à l'électrique, on a notre expérience qui joue pour nous.
Vous avez combien de véhicules financés à date ?
Alors aujourd'hui, on a dépassé les 1000 véhicules, on doit être à 1050 à peu près.
Vous proposez une offre fournie, hein, je suis allé voir sur votre site, 54 véhicules électriques au catalogue. Quels sont les plus demandés ? Vous avez un top 3 par exemple ?
Alors l'idée en effet, c'était de proposer le plus de véhicules possible et d'avoir des protocoles avec l'ensemble des constructeurs automobiles, en tout cas ceux qui sont positionnés, qui ont une offre cohérente sur l'électrique.
Ouais.
Et en effet, on est fiers d'avoir un catalogue assez large. Ça correspond aussi à l'offre des constructeurs qui s'est améliorée hein, ces derniers mois. Un top 3, c'est une bonne question. On est beaucoup sur le véhicule utilitaire. On fait 2/3 à 3/4 de véhicules utilitaires. Sur ce segment, c'est à la fois le Ford e-Transit qui est très plébiscité par nos clients,
ouais.
Le Citroën e-Jumpy ainsi que le Mercedes e-Sprinter, voilà donc trois marques différentes. Et sur le VP, sur les voitures, c'est très hétérogène. On a fait beaucoup ces derniers temps de petits véhicules du type Renault Twingo, hein, e-tech. On a forcément aussi pas mal de Tesla, modèle Y, on a vendu pas mal de modèle Y en 2023. Et puis, on a même un petit peu des véhicules statutaires électriques à plus de 100 000 euros pour certains clients. Voilà.
Quel est le mix véhicule particulier, véhicule utilitaire dans votre parc financier aujourd'hui?
On est entre 2/3 et 3/4 de véhicules utilitaires. Donc, on a démarré avec un fort prisme véhicule utilitaire. L'ADN, la Poste, a joué aussi hein, là-dessus, puisque c'est notre expertise du véhicule utilitaire qui a parlé. On est en train de réaligner un petit peu notre objectif d'être en 2024 à 50-50 entre VP et VUL.
Une question qui revient maintenant de plus en plus souvent, j'ai l'impression, sur les arbitrages que vous devez faire. Qu'est-ce qui est le plus important pour vos clients? Est-ce que c'est l'autonomie ou la recharge? Vous allez me dire les deux, bien sûr.
Mais... Non, c'est une bonne question. En fait, c'est intéressant, c'est hyper intéressant comme question. Pour tout le monde, le sujet, c'est l'autonomie. Et sauf pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui roulent déjà en véhicule électrique, où le sujet c'est plus l'autonomie, c'est la recharge. Voilà.
Ouais,
quand on s'y connaît pas, avant d'avoir un véhicule électrique, le sujet c'est l'autonomie. Quand on a un véhicule électrique, c'est la recharge. Point à la ligne. Enfin, pour moi.
Voilà. C'est vrai.
Donc, c'est vrai que ce qui est difficile pour nous en tant qu'experts de l'électrique, c'est d'accompagner des clients qui n'ont pas de véhicule électrique. Hein. Dans 90% des cas, ils n'ont pas encore basculé. Et d'avoir les bons arguments, le bon accompagnement, la bonne pédagogie, alors qu'on n'a pas le même alignement en termes d'expertise, de crainte, etc. Voilà. Donc, faut justement parler de ces sujets. Il y a beaucoup de craintes autour du véhicule électrique. Des craintes a priori, puisqu'à posteriori, les utilisateurs du véhicule électrique sont en très grande majorité convaincus et même prescripteurs.
Hein. Voilà. Ouais.
Donc, c'est un grand enjeu pour nous.
Et ça induit justement cette question que je pose souvent à des entreprises comme la vôtre, c'est quels sont les principaux points de friction, quels sont les défis, comment vous arrivez à convaincre des entreprises qui sont pas forcément convaincues à passer à l'électrique? Est-ce que c'est aujourd'hui plus facile ou est-ce qu'il faut encore faire beaucoup de pédagogie?
Alors, en effet, le véhicule électrique pour moi a énormément d'avantages, énormément sur plein de sujets. Il y a un inconvénient, c'est la complexité à passer au véhicule électrique. Complexité parce qu'on change complètement de mode, hein, de repère, et puis dans une entreprise, les canaux de décision vont être du coup assez différents. Donc pour nous, il faut faire attention à bien accompagner nos clients. Déjà, notre expertise, ça les rassure par rapport à d'autres acteurs de la location longue durée qui ont fait essentiellement du diesel pendant des années, qui continuent à faire essentiellement du diesel, hein, qui font moins de 10% d'électrique. Notre expertise, le fait qu'on fasse 100% de véhicules électriques, ça les rassure pour trouver les bons mots, les accompagner, leur partager notre expertise. Et ensuite, il faut savoir parler à un public qui est assez large. C'est-à-dire que quand on renouvelle un véhicule diesel par un autre véhicule diesel, on parle au gestionnaire de flotte. Quand on renouvelle un véhicule diesel par un véhicule électrique, on va parler au gestionnaire de flotte, au DAF, au DRH, aux dirigeants et bien entendu aux salariés pour la conduite du changement, voire à l'immobilier pour l'infrastructure sur les bornes, etc. Donc en fait, on a beaucoup d'interlocuteurs, il faut avoir un message adapté pour chaque interlocuteur, et du coup, les temps de décision sont plus longs puisqu'il y a plus d'interlocuteurs. Décision de passer du diesel à l'électrique, c'est une décision dans une entreprise de taille moyenne. Ce n'est plus une décision de gestionnaire de flotte.
J'ai vu aussi que vous garantissiez une reprise sans mauvaise surprise, et notamment aucun frais de réparation de carrosserie à la restitution des véhicules. C'est assez rare dans le milieu de la LLD. Vous faites comment?
Alors, c'est une option. C'est une option qui s'appelle l'option sans souci. Et comme toute option, il n'y a pas de secret, c'est une option payante.
Payante, j'imagine.
Donc, l'idée, c'est d'aider le client à dérisquer sa remise de véhicule et d'anticiper avec lui les coûts de remise en état. Voilà, en quelque sorte, entre guillemets, en les provisionnant chaque mois. Je précise également que c'est une option qu'on propose uniquement sur le véhicule utilitaire. Alors, pourquoi que sur le véhicule utilitaire? Puisqu'un véhicule utilitaire, on va pouvoir faire, entre guillemets, du smart repair. C'est-à-dire, au bout de 3 ans ou 4 ans, une aile qui est un petit peu abîmée, la débosser, corriger les rayures, mais ne pas changer la portière. Là où pour un VP, il faudra que le véhicule soit en état impeccable pour être vendu. Donc on peut jouer un petit peu là-dessus et sur la tolérance qu'il y a sur le véhicule utilitaire, sur l'état du véhicule à 3-4 ans, pour ne pas facturer plein pot notre client pour tout refaire à neuf le véhicule utilitaire, mais inversement, donc on souhaite éviter des problématiques de fin de contrat. Je connais assez bien le marché du véhicule utilitaire à titre professionnel, et donc anticiper ces problématiques mois par mois avec nos clients.
Concernant le coût total de détention, le TCO des véhicules électriques, vous avez une méthodologie à proposer à vos clients. Vous leur proposez des méthodes de calcul. Enfin, ça fait partie de l'offre.
Oui, et on y passe beaucoup de temps parce que en fait, quand on regarde le prix d'un véhicule électrique par rapport à son équivalent thermique, on est à peu près 30% plus cher. Voilà. Ouais. Quand on va regarder ensuite en location longue durée, on est même plutôt à 50% plus cher, puisqu'il y a des effets de remise des constructeurs qui sont plus faibles sur le véhicule électrique, il y a des effets de valeur résiduelle. Et donc, si on compare juste un loyer de véhicule diesel avec un loyer de véhicule électrique, on est mort. Nous, on est mort, Movivolt. Donc, il faut qu'on montre aux clients, on doit avoir de la pédagogie pour regarder le coût complet. Regardez déjà tout ce qu'il y a en coût d'énergie, bien entendu, hein, c'est un des gros avantages du véhicule électrique entre la recharge électrique et puis l'équivalent en termes de carburant. Et regardez ensuite les impacts taxes. Parce que les impacts taxes, même s'il n'y a plus de bonus pour les voitures en 2024, hein, pour les professionnels, il y en a toujours pour les VUL. Et puis, les taxes sur les émissions de CO2, sur le poids des véhicules thermiques ont fortement augmenté ces derniers temps. Et quand on regarde en coût complet, on peut montrer à nos clients qu'à partir de, allez, environ 20 000 km par an, on est à break-even et même moins cher en coût d'utilisation, en coût complet, hein, d'utilisation véhicule électrique par rapport à son équivalent thermique. Donc en fait, c'est un vrai exercice d'acculturer, d'accompagner nos clients sans rentrer non plus dans des détails. Enfin voilà, il faut un argumentaire qui soit à la fois clair, compréhensible et qui rentre quand même dans le détail des coûts d'un véhicule.
Est-ce que la suppression récente du bonus de 3000 euros justement pour les véhicules électriques de société a eu un impact? Vous avez dû ramer un peu derrière ou pas du tout?
Bah, bien sûr. Bien sûr, c'est à la fois une suppression du bonus qui avait un impact très fort, puisque nous, nos contrats, en moyenne, c'est 48 mois. Donc, vous voyez, 3000 euros en moins, c'est 60 euros de plus dans le loyer. Voilà. Donc, déjà, c'est un impact. Ensuite, moi, je regrette le fait qu'il n'y ait pas de stabilité ou pas de visibilité sur les règles fiscales liées aux véhicules électriques. Mais ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne voit pas, c'est que dans le même temps, au 1er janvier 2024, et ça fait quelques années que ça dure, il y a eu justement un renforcement de l'arsenal législatif sur les véhicules thermiques. Et donc, même si le bonus a été supprimé pour les VP, moi, je peux montrer encore un modèle à mes clients pour leur montrer que le véhicule électrique a toujours un intérêt en termes de TCO à partir du moment où on roule un petit peu. Voilà. C'est que certes, il y a eu le bonus qui a été supprimé, mais de l'autre côté, il y a tellement de taxes sur le diesel et sur l'essence que le véhicule électrique a tout son intérêt.
Quelles sont les tendances, on va dire un petit peu chiffrées, avec toute la data que vous avez probablement recueillie jusqu'à maintenant, sur le type des véhicules moyens qui est pris chez vous, enfin dans les entreprises, le loyer moyen, la durée moyenne de location? Vous avez dégagé une tendance comme ça?
Ouais. Alors, durée moyenne de location, donc on est très exactement à 47 mois. Kilométrage moyen, client chez Movivolt roule en moyenne 23 500 km par an. Sur le loyer moyen, c'est compliqué, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Je crois qu'on est assez élevé, hein, par rapport au marché. On est à 750 euros, mais ça s'explique aussi par le fait qu'on fait beaucoup de véhicules utilitaires. Donc forcément, un véhicule utilitaire de 12 mètres cubes avec une autonomie décente, ça va coûter plus cher, vous voyez, qu'une Dacia Spring. Donc voilà, ça dépend beaucoup aussi de du portefeuille. C'est juste pour dire qu'en termes de loyer, notre positionnement prix chez Movivolt, c'est d'être dans les prix du marché ou dans les meilleurs prix du marché. Voilà, au prix du marché.
D'accord. Quels sont les retours de vos clients? Vous avez des, j'imagine que vous les accompagnez, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on est content d'être passé à l'électrique et on reviendra par en arrière? Ou la tendance, c'est ça? Ou est-ce que c'est, ah là là, c'est compliqué, on préférerait retourner au diesel ou à l'hybride? Qu'est-ce qu'on vous dit un petit peu?
Je crois que j'ai pas un seul sur 1000 véhicules. J'ai pas entendu un seul client qui aussi clairement, je ne suis pas satisfait de l'électrique, je veux revenir en arrière.
D'accord.
J'ai eu bien entendu des clients qui sont venus chez nous des fois parce qu'ils avaient été mal conseillés ailleurs sur leur choix de véhicule électrique, ou qui disent, bah, en fait, avec un an de recul, j'aurais plutôt dû prendre un autre véhicule. Donc ça, oui, ça existe. Après, il y a 98% de prescripteurs sur le véhicule électrique parmi nos clients. Des fois, même c'est surprenant, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont passés à l'électrique parce qu'ils étaient obligés, par exemple, par leur donneur d'ordre, de passer au véhicule électrique et de convertir leur flotte d'utilitaires en véhicule électrique. Et la première semaine, c'est compliqué. Prendre les habitudes pour recharger le véhicule, etc. Et au bout d'une semaine, c'est vraiment beaucoup moins de stress, des habitudes de conduite qui sont beaucoup plus faciles, etc. Voilà. On a des remontées justement sur les utilitaires de la part de nos clients sur les difficultés à recharger les véhicules. C'est-à-dire que les bornes électriques, surtout en milieu urbain, sont prévues pour des Renault Zoé, pas pour des véhicules utilitaires qui font 7 mètres de long. Et ça pose problème à nos clients. Donc, vous voyez, on a des retours des fois assez très concrets. Et on a vraiment des retours très concrets. Mais moi, il y a moins d'une semaine, j'ai échangé avec un client qui, pour le coup, est taxi dans le sud de la France, dans le Gard, et qui a été un de nos premiers clients, qui disait que ça, il y a un des véhicules qui atteignait 180 000 km, donc à peu près, vous voyez, à peu près 100 000 km par an. Et il me disait satisfaction totale, beaucoup moins de coûts, bien entendu, d'énergie par rapport au diesel. Et il me dit la batterie, elle a perdu à peu près 4-5% de capacité en 180 000 km. Donc, vous voyez, on a ce genre de retour hyper concret, en plus des retours à grande échelle, bien entendu, de VI Poste côté La Poste.
Emmanuel, j'ai une dernière question pour vous qui est plus personnelle et que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez en véhicule électrique? Mais je crois avoir deviné la réponse.
Moi, je roule pas en véhicule électrique, je roule à vélo 90% du temps. Je suis sur mon vélo pour venir travailler et ça me fait du bien. Mais en effet, bien entendu, j'ai une famille avec deux enfants et j'ai une voiture électrique. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger quand les gens disent on peut pas partir en vacances en voiture électrique, etc. Moi, je suis d'origine corse, j'ai fait 3500 km cet été en voiture électrique. Et c'est un mélange de vouloir accompagner les gens, leur expliquer que si, on peut faire des longs trajets en voiture électrique. Des fois, un petit peu de frustration aussi de vouloir toujours expliquer, ou quand on allume la radio, on allume la télé, ou on lit les journaux, de parler des contraintes et de ne pas les vivre soi-même au quotidien. Et on a quand même 1000 véhicules à la route parmi nos clients qui ne vivent pas la même expérience, qui vivent une expérience tout à fait cohérente et agréable en véhicule électrique. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Bonneau. Je rappelle que vous êtes président de Movivolt, une société spécialisée dans la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Merci.
Et merci Eric pour cet échange. À bientôt.
L'essai de la semaine.
Le Skoda Enyaq bénéficie de petites évolutions en 2024 et inaugure une nouvelle finition haut de gamme, Lorin & Clement, parfaitement équipée. Cette semaine, notre essayeur maison Maxime Fontanier nous propose un bilan un peu particulier avec plus de 1900 km entre Paris et les Alpes avec 4 skieurs à bord.
Le Skoda Enyaq profite d'une cure de jouvence en 2024 avec de nombreuses améliorations. Et donc, nous avons ici affaire à un modèle 85X. Donc X, c'est deux moteurs, 4 roues motrices, un moteur induction à l'avant, un moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière, pour 285 chevaux, le tout associé à une batterie de 77 kWh de capacité. L'objectif de cet essai est donc de faire un long trajet de 800 km jusqu'à la montagne, la station de La Rosière, en partant de Montmorency, donc du nord de Paris. Et nous allons donc utiliser cette version haut de gamme, finition Lorin Clément, équipée de magnifiques jantes de 20 pouces en série, mais chaussée de pneus neige pour l'occasion. Et nous voici arrivés à la station de La Rosière, où il y a de l'ambiance hein, et il fait encore jour. Donc on a mis 9 heures à peu près pour faire le trajet. C'est ce qu'on aurait mis avec un véhicule thermique en faisant une pause le midi et deux arrêts pipi, on va dire. Donc, c'est quasiment aussi rapide que du thermique. Aujourd'hui, on trouve des bornes partout. Par contre, c'est vrai que c'est cher sur les bornes autoroutières en courant continu. Ça va coûter environ 60 centimes du kilowattheure. Donc ça, c'est quand même pas donné. Ce sera quand même moins cher qu'avec un véhicule thermique équivalent, un gros 4x4 de 280 chevaux. Donc bref, ça reste plus intéressant d'un point de vue financier. Surtout quand vous allez vous recharger à domicile tous les jours, où là, ça coûtera 70% de moins qu'un véhicule thermique, ça faut pas l'oublier au quotidien. Pour en revenir à ce nouveau Skoda Enyaq, cette version optimisée 2024, ça charge bien, ça charge vite, le moteur eh bien, consomme moins, le planificateur, la mise à jour aussi est efficace, il marche mieux qu'avant. Bref, cette optimisation est réussie, même si là encore une fois on est sur un modèle haut de gamme à plus de 60 000 €, donc c'est pas réservé à tout le monde.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut !